Bon après-midi tout le monde. Alors, une chance que c'est le sabbat aujourd'hui. Il n'était pas question de couper le gazon ce matin. Alors, c'est vraiment quelque chose d'étrange. Il fait vraiment chaud. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à tous. Je dois vous dire que nous avons eu des drôles d'orthographe du nom de Saddam Hussein cette semaine. Et je crois que peut-être le plus étonnant parmi tous ceux que nous avons reçus, c'est quelqu'un qui est venu voir notre article où il a écrit le premier nom correctement, Saddam, pas de problème. Mais en ce qui concerne le nom de famille, je vous demande combien de fois est-ce que nous avons vu le nom de Saddam écrit dans les journaux, les grands titres à la télévision ou encore sur le petit ruban mobile que vous voyez à la base de votre écran de télévision. Et voici comment la personne l'a écrit, en anglais bien sûr, là. Hussein, W-H-O-S-A-N-E. Bien sûr, s'il avait mis un point d'interrogation à la fin de ce nom-là, ça aurait peut-être eu un petit peu plus de bon sens. Quoi qu'il en soit, ça devait être une personne quand même qui était sincère, puisqu'elle voulait réellement lire l'article. Il reste que c'est vraiment quelque chose d'étonnant. On ne peut pas faire mieux, j'ai l'impression. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est de savoir que ceux qui ont créé ces engins de recherche savaient que ce genre de personnes existent dans le monde et qu'ils avaient besoin d'une aide spéciale. Et puis peut-être même que c'est un païen, je ne sais pas. Alors, je sais que tout le monde ne comprendrait pas pourquoi je dis une telle chose. Ça fait allusion à une lettre drôle que nous avons reçue cette semaine. Alors, nous accepterons toutes les louanges et les félicitations de ceux qui voudront bien nous en donner. Et si un païen comme nous aime, comme c'était le cas avec cette lettre-là, alors M. Armstrong donnait de temps à autre des sermons, et certains de vous, les anciens membres, allez vous souvenir de ça. Alors, des sermons qui étaient, ou je devrais dire, certains étaient réellement des études bibliques, mais il y en a d'autres qui pouvaient être pris pour des études, ou compris comme des études bibliques. Et certains d'entre eux étaient donnés comme des études bibliques, d'autres comme sermons. Et cela s'est passé surtout vers la fin des années 70 et au début des années 80, peut-être 3 ou 4 ans avant sa mort. Alors, à cette époque-là, M. Armstrong pouvait donner, par exemple, une série de sermons, par exemple, comme sur les Corinthiens, ensuite les Galates, ensuite Philippiens, Colossiens, etc. Et je me souviens bien de cela. Et où je voulais en venir, en fait, c'est que parfois, M. Armstrong donnait ce genre d'études en tant que sermon. Alors, ceci dit, c'est le genre de choses que je fais aussi de temps à autre. Et vous avez vu d'ailleurs M. Ambrose qui l'a fait il y a une couple de semaines sur l'Épître aux Colossiens. Et je le ferai également moi aussi de temps à autre à l'avenir. J'aimerais quand même vous donner un petit peu une toile de fond, une idée de ce que j'ai l'intention de faire. Alors, il y a un certain temps déjà que j'ai en tête de vous donner toute une série de sermons, une série qui serait très volumineuse. Je parle dans la taille de ce que je vais vous donner. Et quelque chose de très excitant également. C'est quelque chose qui prendrait sans doute à peu près 4 sermons. Probablement 4 sermons. En tout cas, je pense être capable de le donner à l'intérieur de 4 sermons. Alors, certains vont dire, waouh, encore une autre série de 4 sermons. Et vous allez tout simplement être obligé de me croire en vous disant que ce sera tous des sermons qui seront très intéressants. Par contre, je ne crois pas que je vais donner les 4 sermons l'un après l'autre pendant 4 semaines. Entre autres parce qu'on trouve un point de scission à un moment donné après les 2 premiers. Et j'aimerais quand même commenter un petit peu avant que poursuive. J'avais l'intention de donner ces sermons en commençant aujourd'hui, ou du moins commencer la série aujourd'hui. Et ces sermons couvrent entre autres certaines parties prophétiques. En tout cas, en ce qui concerne surtout les sermons 3 et 4, ce qui n'est pas le cas, entre autres, de la première et la deuxième partie, qui ont surtout à faire avec l'histoire. Mais en ce qui concerne ce genre de sujet-là, il est impossible de commencer autrement que par l'histoire et puis terminer autrement que par la prophétie. Alors, je sais que j'aiguise un petit peu la curiosité ici, et je sais que la prophétie est quelque chose, est toujours quelque chose d'excitant et d'intéressant. Et bien entendu, si en plus de cela, ça implique de nouvelles connaissances, alors c'est encore plus excitant. Et bien entendu, Les sermons sur les 144 000 sont un exemple parfait de cela. Mais je peux vous dire que littéralement, nous avons eu plusieurs dizaines de milliers, plusieurs milliers de personnes ont téléchargé les sermons sur les 144 000. Alors, j'essaie de réfléchir à ce que j'ai vu hier soir. Je pense que ça fait maintenant déjà 5 semaines, mais nous n'avons les statistiques que pour les 4 premières semaines. Donc, on parle de vraiment milliers de personnes. Je savais qu'il y aurait sans doute des milliers de personnes qui seraient intéressées, mais je croyais réellement que ça prendrait beaucoup plus de temps avant d'atteindre ces niveaux-là. Alors, ça a été quelque chose de, encore une fois, très intéressant, très excitant, et nous n'avons eu personne qui les ont vraiment critiqués. Je suis certain qu'il y en a quelques-uns qui ne les aiment pas, mais nous n'en entendons pas parler. Et je sais qu'un grand nombre de personnes les ont trouvés très excitants. Ce serait bien plaisant si nous pouvions trouver à chaque sabbat des sujets aussi excitants que ceux-là. Mais il ne s'agirait pas, dans ce cas-là, d'une ce qu'on appellerait une diète bien équilibrée. Et c'est pourquoi j'étais en train de réfléchir et j'ai commencé à penser, alors que je me préparais vraiment à partir sur le sujet, et je le répète, c'est un sujet bien excitant, mais je ne veux pas toujours arriver, frères et sœurs, avec des sermons sur la prophétie, par exemple. J'aimerais ajouter que je ne veux pas arriver toujours avec des nouvelles vérités, bien que, en revisant certaines choses, nous arrivions souvent à la fin de tout cela à une compréhension nouvelle. Et j'avais justement à l'esprit cette série de sermons qui nous aurait donné justement cette nouvelle connaissance qui avait déjà été mentionnée par M. Armstrong auparavant. Et il l'avait mentionné à plusieurs reprises, et je ne crois pas qu'il l'avait pleinement compris à cet instant-là, à ce moment-là. En tout cas, il ne l'avait jamais expliqué pleinement. Et moi, je sentais le besoin de vous l'expliquer au complet. Et une des raisons, c'est que ça va nous aider, nous, à être mieux définis. Ça va nous caractériser davantage. Et mon intention était justement de vous donner ce début de série-là comme introduction à la troisième et à la quatrième partie. Mais en réfléchissant à tout ça, j'ai commencé à m'apercevoir que j'ai couvert des sujets prophétiques si souvent dernièrement que je me suis dit que ce n'était pas réellement approprié pour l'instant. Donc, j'ai dû en quelque sorte me forcer à dire « je veux donner quelque chose de différent ». Et la raison pour laquelle je fais ça, bien entendu, c'est que nous avons présentement en cours une œuvre énorme qui est en marche. Alors, vous avez tous entendu les statistiques. Nous avons eu une semaine record la semaine dernière. Alors, ce record-là a duré une seule semaine et il a été battu la semaine suivante par une augmentation de 99,7%. Donc, si vous voulez faire des chiffres ronds, nous avons eu la meilleure semaine de toute notre histoire qui s'est terminée le 31 décembre et nous l'avons battu, ce record-là, la semaine suivante qui a suivi, par 100%. Si vous voulez calculer, faire les calculs pour les téléchargements de 419 000 pendant une semaine, et imaginez par la suite qu'il n'y aura plus jamais de croissance, mais nous demeurerions à ce niveau-là. En réalité, je pense que nous allons retomber, puis ensuite nous allons repartir vers l'avant pour le dépasser. Mais supposons quand même que nous maintenons ce niveau de 419 000 et que nous le maintenions pendant 52 semaines. Ce serait l'équivalent de donner 22 millions d'items sur Internet cette année. Et nous savons que nous en avons donné 8,5 millions l'année dernière, 3,5 millions l'année précédente, et je crois que c'était 1,1 million l'année avant cela. Alors, ça veut dire que l'explosion se poursuit. Un autre point qui est intéressant également, c'est que si vous regardez l'année 2006 et que vous redivisez là, les résultats de chacun des trois sites Internet, le site de l'Église, le RCG, a cru, en arrondissant les chiffres, là, de 90% flat, comme on dit. Le site Internet de la Real Truth a cru, lui, de 207%. Et le site Internet du Ambassador Youth, lui, a cru de plus de 307%. Excusez-moi, au-delà de 353%. Donc, si vous faites les moyennes pondérées, parce que le site de l'Église est beaucoup plus gros et beaucoup plus de poids que les autres, nous avons cru cette année de 128%. Alors, je répète, à propos de la semaine dernière, le site de La Real Truth, et parce que nous mettons l'emphase sur ce site-là, parce que c'est celui qui annonce le royaume de Dieu au monde entier. Alors, nous avons vraiment, à cet égard, des plans absolument renversants, extraordinaires. En fait, des plans incroyables quand ce qui concerne ce site-là. Et nous devrions pouvoir les mettre en action très, très bientôt. En fait, ça dépasse ce que je pourrais en dire présentement, et sans doute ce que vous pourriez en comprendre si je me décidais à vous donner tout ce que c'est que nous avons l'intention de faire dans les 5 prochaines minutes. Mais je peux vous dire que ça va avoir un impact énorme, et que ça commence déjà à avoir un effet. Et c'est, nous en sommes qu'au tout début. Mais je peux au moins vous confier que le site Internet de La Real Truth a un potentiel que nous ne venons que de découvrir la semaine dernière. Nous avons, pendant une journée ou deux seulement, eu tout à coup une poussée vers le haut. Et on parle de seulement ce site-là, donc il n'est pas aussi gros que le site de RCG. Mais éventuellement, il le deviendra. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que cette croissance-là, pendant une journée ou deux, l'a fait en sorte que le site s'est rendu au niveau du 14 millième site Internet. Alors, peut-être que je me trompe, là, si on regarde les deux sites, je crois que le site de RCG était au niveau du 70 millième, celui de la Real Truth était au niveau du 105 millième, mais juste à ces deux jours-là, le site de la Real Truth a vraiment été frappé le 14 millième rang. Alors, c'est quelque chose d'approchant de toute façon, et ça, c'est sur les 105 millions de sites Internet dans le monde. Et nous avons appris à cette occasion-là que nous pouvons contrôler notre taille, la taille du site. Nous avons appris des choses extrêmement précieuses quant à ce que nous pouvons faire pour ces sites Internet. Et au moment où plane, comme on pourrait dire, l'image d'un site Internet énorme, nous avons besoin d'avoir des choses additionnelles à la prophétie. J'ai donné la série des 144 000 et nous l'avons toujours présent à l'esprit. Maintenant que nous savons qui ils sont, que nous comprenons davantage le salut et le plan de Dieu, il est temps, en fait, de mettre l'emphase sur d'autres sujets. Nous avons besoin, en fait, de traiter de sujets qui vont nous assurer que nous soyons parmi les 144 000. Alors, nous comprenons qu'il s'agit d'un nombre extrêmement petit, dans le fond. Et nous avons quand même appris, lorsque nous écoutions la série des 144 000, que ça restait quand même un nombre assez considérable si on regardait les besoins que Dieu avait par rapport au nombre de personnes qui restaient, hein, si on faisait le calcul mathématique, si on regardait le nombre de personnes dont Dieu avait besoin pour commencer à enseigner à toutes les nations. Donc, j'aimerais faire un retour en arrière et retourner à ce qu'on pourrait appeler la base. Si vous lisiez, par exemple, la Bible selon l'ordre inspiré dans lequel elle a été donnée. Vous arriveriez au ce qu'on appelle les épîtres universelles ou générales après avoir lu les évangiles et le livre des actes. Vous commenceriez, dans le fond, à ce moment-là, par le livre de Jacques. Alors, comme vous pouvez vous en souvenir, l'épître de Jacques est vraiment quelque chose qui est fascinant. Et si vous vous rappelez, j'y ai fait référence à deux reprises lorsque j'ai donné la série des 144 000. Et je crois que nous devons le relire, le lire à nouveau. D'abord parce que c'est un livre qui est extrêmement puissant. Et il représente, ce livre, ce qu'un chrétien doit commencer à comprendre après qu'il a fini de lire les évangiles, ce qu'on pourrait appeler le fondamental. Et ensuite, les actes des apôtres. Or, on sait que Rome a voulu, à un moment donné, dire « Nous voulons exalter Rome ». Et en réalité, voilà la raison pour laquelle l'Épître aux Romains, qui contient des passages qui sont difficiles à comprendre à certains égards, alors c'est la raison pour laquelle le livre s'est retrouvé en premier, même si Paul avait écrit des choses qui étaient difficiles à comprendre. Rome ne comprenait pas le livre aux Romains, mais elle savait que c'était celui qui était destiné aux Romains. Donc, elles l'ont mis en premier. En réalité, l'Épître aux Romains n'est pas si difficile à comprendre si, par exemple, vous avez lu d'autres livres, comme, entre autres, l'Épître de Jacques, et ensuite 1 et 2 Pierre, et 1, 2 et 3 Jean, et Jude. Alors, après avoir lu cela, Paul devient de plus en plus facile à comprendre. Et cela est vrai si vous lisez les livres, les Biblos, la Bible, de la façon dont Dieu voulait que vous le lisiez. Donc, le nouveau chrétien devrait commencer par le fondement qui est posé au tout début par le livre de Jacques. Donc, rendons-nous là et commençons à parler des points principaux du livre de Jacques. Alors, il a été écrit d'abord aux environs de l'an 60 et a été surnommé le livre de la foi. Alors, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle aussi le chapitre de la foi dans Hébreux 11. Il y en a d'autres chapitres qui ont été surnommés avec, par exemple, le chapitre de l'amour, vous avez le chapitre des jours saints, vous avez celui des malédictions et des bénédictions, ensuite celui sur les viandes pures et impures, et différents autres comme ça qui ont un titre particulier. Alors celui-ci est sans doute non seulement ce qu'on appellerait le chapitre de la foi, mais c'est le livre de la foi. Il a été écrit environ 2 ans avant que Jacques meure. Il s'agit d'un livre qui est incroyablement intéressant. Mais le livre est intéressant à un autre point de vue, frères et sœurs, c'est qu'au fur et à mesure que le temps va passer et que l'Église va progresser, il va falloir qu'elle démontre toujours plus d'unité. Nous allons avoir besoin toujours de plus de l'amour de Dieu pour être capable de persévérer et d'endurer l'horreur qui va nous entourer, ainsi que de l'amour fraternel, qui est la caractéristique de ceux de la sixième ère. Alors, nous ne sommes plus de la sixième ère. Vous le savez, nous sommes maintenant dans l'ère de Laodicée. Donc, ce que vous pouvez espérer de mieux, ce que vous devez vouloir, c'est d'avoir le caractère de l'ère de Philadelphie. Vous ne pouvez plus dire que vous êtes de Philadelphie. Vous n'êtes plus. L'ère de Philadelphie n'existe plus. Nous sommes dans l'ère de Laodicée. Mais vous pouvez dire que vous avez conservé le caractère de Philadelphie, d'un Philadelphien. Alors, autrement dit, si nous utilisons le mot « caractère philadelphien », ça nous permet de nous concentrer davantage sur ce que nous devons refléter, ce que doit être un chrétien, mais un chrétien philadelphien. Celui qui a l'amour fraternel. Mais il faut aussi se rappeler que c'est par beaucoup de tribulations que nous héritons le royaume de Dieu. Donc, je suppose qu'avec les épreuves qui nous attendent, des épreuves si immenses, si énormes que le monde n'en a jamais vu de semblables, nous devons nous rappeler que ceux qui ont reçu la promesse qu'ils pourraient traverser ces épreuves-là, conserver la vie, nous devons croire que nous allons avoir justement à vivre pendant ces épreuves. Ce qui signifie, ce qui sous-entend, que nous devons comprendre les épreuves, et c'est ce par quoi le livre de Jacques débute. Bon, alors revenons brièvement sur le sujet des 144 000. Alors, j'avais lu à cette occasion-là Jacques 1:1, et lisons-le à nouveau. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut! Et je crois que j'avais lu ça lorsque j'étais dans la deuxième partie des 144 000. Et une fois rendu dans la troisième partie, je suis revenu et je l'avais relu. Sauf qu'à cette deuxième occasion, j'avais lu le verset numéro 2 qui disait « Mes frères ». Puis je m'étais arrêté à cet endroit. Alors c'était vraiment une façon intéressante, fascinante, de montrer que les 12 tribus étaient les frères et les sœurs de l'Église de Dieu. Il s'agissait d'une des très fortes preuves des 144 000 parmi bien d'autres aussi. Mais maintenant, nous arrivons à un moment donné à quelque chose d'encore plus important qui est qu'est-ce que Jacques a dit aux 12 tribus, celles qui sont dispersées, et j'ajouterai celles qui sont et qui ont été dispersées à travers toute l'histoire. Les frères et les sœurs de Dieu, en Dieu, qu'est-ce qu'il leur a dit? regardons le point de vue académique, si vous voulez, il a d'abord envoyé sa salutation aux frères à travers tous les âges, tous les siècles. C'est ce qu'il fait par salut. Ensuite, mes frères, la première des choses qu'un chrétien voit après avoir lu les évangiles, après avoir lu les actes des apôtres, la première chose qu'il voit après avoir reçu le salut de Jacques, qui meurt en fait 2 ans après avoir écrit cela, c'est quelque chose au sujet des épreuves. C'est la première des choses. Parce que dès que vous devenez chrétien, vous littéralement vous plongez dans ce que nous appelons les épreuves. Alors la Bible parle partout des épreuves. Et nous voyons à l'intérieur de ces récits qu'il y a des gens qui ont à passer à travers ces épreuves-là, même si le nom « épreuve » n'est pas utilisé. Mais ici, lorsque nous commençons à lire, lorsque le chrétien pourrait être, par exemple, confus ou surpris de rencontrer des épreuves, il dit « regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. » Parce que nous voyons au verset suivant qu'il est dit « sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Alors, je vais essayer d'étudier, de vous parler du livre de Jacques aujourd'hui. De toute évidence, on ne sera pas capable de parler en profondeur de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. Tout ce que j'espère, c'est que vous prendrez le temps de le lire soigneusement. Peut-être est-ce que vous pourrez le lire avec l'introduction que je viens de vous donner, mais nous allons le survoler un peu partout. Mais en gros, je vais le lire au complet. Certaines parties, ce seront seulement de la lecture, et d'autres parties, je vais quand même les commenter. Il y a peut-être d'autres parties que nous allons tout simplement sauter également. Le livre est rédigé un peu par thème, d'une façon thématique. Certains commencent au début du chapitre, d'autres peuvent commencer au milieu. Mais il faut que vous voyez ces textes comme étant quelque chose de base, si vraiment vous voulez être un de ceux qui fait partie des 12 tribus d'Israël. Donc, considérez-le de cette façon-là. Nous venons déjà de voir quel était le point numéro 1. Alors, je relis le verset 3, parce qu'il commence en disant « sachant ». Donc, vous devriez normalement savoir que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, essayons de comprendre ce qu'on pourrait appeler la prémisse de base de la vie en ce qui concerne la foi. La foi implique obligatoirement une certaine période de temps, une durée, une période de temps. Cette période peut être courte, médium, longue ou même très longue. Par contre, si la foi recevait toujours une réponse immédiate, ça veut dire que vous n'auriez pas vraiment besoin de foi, encore moins de patience. Si, par exemple, vous êtes sans emploi, et que tout à coup vous vienne à l'esprit immédiatement une pensée, « Ah, j'ai la foi, et je vais avoir un emploi », et qu'immédiatement vous ayez cet emploi-là, alors il n'y a absolument aucun test d'impliquer là-dedans. Il n'y a aucune épreuve à ce moment-là. Et certainement, bien entendu, suite à ça, aucune patience n'est nécessaire. La question qu'on doit se poser, c'est « Pouvons-nous conserver la foi à travers une tempête ?» pendant une période de temps, au point où vous développez ce que la Bible appelle la persévérance. Alors, c'est un point dont j'ai déjà parlé, ça. Si, par exemple, vous êtes au coin de la rue en train d'attendre un autobus, et que cet autobus-là est en retard, il est nécessaire que vous ayez de la patience. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la foi, à moins que si cela va faire en sorte que vous soyez en retard au travail, vous devez peut-être avoir la foi nécessaire pour que Dieu vous envoie l'autobus en temps. Alors, tout dépend des circonstances. Donc, vous êtes là et vous êtes à l'ombre. Il ne fait pas chaud. Vous n'avez pas froid. Vous n'avez pas faim non plus. Il ne vente pas non plus et personne ne vous attaque. Donc, il n'y a aucune difficulté là. Tout ce que vous avez besoin d'avoir, c'est de la patience. Supposons maintenant que vous êtes dans un environnement différent et que vous souffrez. Peut-être est-ce que vous êtes encore toujours à l'arrêt d'autobus, mais il fait extrêmement chaud. Il n'y a pas d'arbres là où vous êtes et vous souffrez de la chaleur. Alors, à ce moment-là, vous êtes obligé, ce qu'on dit souvent, d'endurer, de persévérer. Non seulement vous devez attendre, mais vous devez persévérer. Alors, il y a de la douleur impliquée ici. Ou vous avez froid, ou vous avez chaud, ou quelqu'un vient de vous voler, ou vous volez votre manteau. Alors, j'essaie de tenir ça au niveau le plus élémentaire possible. Une épreuve peut être très douloureuse à un moment donné. Si vous n'avez pas d'emploi, par exemple, et vos finances commencent à en souffrir beaucoup. Bon, alors, frères et sœurs, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la foi va de pair avec la patience. Alors, il y a cette lettre que nous avons reçue l'autre jour. Alors, cette personne qui nous écrit me demande, elle dit, j'ai une question personnelle pour vous. Est-ce que vous avez été sauvé? Alors, j'ai demandé à un de nos rédacteurs de lui répondre en lui disant, M. Pack m'a demandé de vous écrire et de vous répondre. Non, il n'a pas été sauvé et c'est la raison pour laquelle il m'a dirigé et il m'a dit de vous répondre. Autrement dit, il est toujours ici, dans la chair. Et si vous n'aviez pas obtenu de réponse de la part de M. Pack, alors une des conclusions possibles, c'est que oui, il aurait pu être sauvé et il était parti. Alors, un autre exemple de ce genre de choses-là, c'est il y a déjà plusieurs années de cela, alors que j'entrais à un endroit particulier, là, public, il y a eu cet homme qui m'a littéralement attrapé. Il distribuait des tracts. Et il me dit, monsieur, il dit, est-ce que vous êtes né de nouveau? Puis j'ai répondu, non, je suis devant toi, là, puis je suis en train de te parler. Ça l'a tellement surpris qu'il s'est tout simplement parti. Alors, je ne réussis pas toujours à avoir ce genre de réponse, mais c'est une des occasions où je pense que j'avais assez bien réussi. Alors, de toute façon, je pense qu'il n'y avait plus rien à dire. Je pense même qu'il ne m'a jamais donné le papier. Bon, alors, en conclusion, dans le fond, c'est que nous avons besoin de faire preuve de foi et de patience pendant toute notre vie. Et comme le disait M. Ambrose en lisant la lettre, c'est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, la vie, dans le sens général, n'est pas nécessairement une partie de plaisir, mais une occasion d'apprendre la foi et la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Vous ne savez pas combien de temps ça va prendre pour que la patience accomplisse son œuvre comme il faut, parfaitement. Je ne sais pas, moi non plus. Et puis, les épreuves sont différentes. Et vous devez comprendre ceci. Lorsque une épreuve est donnée, et là, on fait affaire directement avec le mode de vie chrétien, lorsque vous avez une épreuve dans laquelle vous entrez, il y a une limite de temps. Mais vous ne savez pas ce qu'elle est. Remarquez que vous seriez obligé de toute façon d'attendre, si jamais même on vous le disait, cette épreuve va durer un mois, ou une semaine, ou deux ans. Mais c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas savoir. Et vous êtes obligé de rentrer dans l'épreuve, sans savoir si ça va durer juste une semaine ou même deux ans. On sait qu'il y a certaines épreuves, de par la nature, on sait qu'ils ne dureront pas réellement longtemps. Et si on poursuit, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. J'espère avoir l'occasion, à un moment donné, de donner un sermon sur tous les endroits dans la Bible où on parle des notions de base, qui nous montrent que nous devons développer la patience. On peut, par exemple, regarder un verset en particulier. Rendez-vous dans Apocalypse. Apocalypse, et nous allons nous rendre au chapitre 14 et au verset 12. Il s'agit ici, en quelque sorte, un peu d'un résumé de ce que sont les chrétiens. Et ça se situe, en fait, pas longtemps après que les 140 000 ont été présentés. C'est ici la persévérance, en anglais dit le mot patience, persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, et voici encore ce qui y est rattaché, et la foi de Jésus. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils observent, ils gardent les commandements de Dieu pendant toute leur vie. Et ce n'est pas seulement avec leur foi, mais avec la foi de Jésus. Puis, au verset 5 dans Jacques, maintenant, ça change un peu de sujet ici. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. Frères, si nous sommes les faibles du monde, si nous sommes appelés les choses folles du monde, si nous sommes les choses viles, les méprisées du monde, celles qui ne sont pas, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 1, alors, frères et sœurs, une des prémices, une des premières choses qu'un vrai chrétien va comprendre après s'être repenti, c'est justement, je fais partie des choses folles du monde. Je manque de sagesse. Qu'est-ce que je peux faire à ce sujet-là? Alors, la réponse est simple. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous. Et non seulement à tous, mais qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Donc, si j'étais vous, et c'est ce que je fais aussi, compte tenu des temps difficiles, troublants, compliqués qui s'en viennent, je demande à Dieu de la sagesse, simplement parce qu'il nous dit qu'il nous la donnerait, mais qu'il la demande avec foi. Alors, on voit encore la foi qui est impliquée ici. Sans douter. Autrement dit, vous n'obtenez pas la sagesse immédiatement. C'est évident que si on vous la donnait immédiatement, vous n'auriez pas besoin de foi. Sans douter. Sans douter, il va vous la donner. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Si jamais vous avez été sur la mer, c'est un endroit où j'ai été extrêmement souvent, dans l'Atlantique, dans le Pacifique. En fait, j'ai été dans la mer il y a environ 6 semaines. Je faisais un peu de natation, et j'ai rencontré des vagues tout de même assez grosses. Mon fils et mon beau-fils, avec mon fils et mon beau-fils, et nous sommes amusés. Nous avons vu le soleil se coucher. Je n'avais jamais été nager pendant l'hiver. Je pense que c'était le 1er décembre, ou 3 décembre, je ne sais pas. Donc, nous avons été nager un peu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas nagé, en réalité. Et on voit que les vagues s'en vont dans la direction où le vent les conduit, la façon dont les choses se passent. En fait, les vagues ne sont pas attachées à quelque part, à quoi que ce soit. Peu importe la profondeur de l'océan, elles ne font que continuer selon ce que le vent les conduit. Donc, agitées par le vent et poussées de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Frères et sœurs, nous devons être pleinement dirigés par la parole de Dieu. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. On parle beaucoup ici de la pauvreté et des pauvres dans la lettre de Jacques, et à propos des riches aussi. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Lorsque vous venez à l'Église, si vous êtes pauvre, Dieu vous élève. Vous retrouvez ce sentiment-là d'avoir été élevé par Dieu. Et vous n'êtes absolument pas différent de quiconque à part de ça. Il n'y a plus de mâle, homme, femme, libre, esclave, riche, pauvre. Tous sont sanctifiés. Par contre, le riche apprend d'autres choses. Dans le monde, il s'aperçoit que les gens alentour de lui veulent le servir. Tout le monde est ami d'un homme riche. Mais tout à coup, il vient à l'église, surtout s'il vient à une église où il y a les faibles du monde, et il s'aperçoit tout à coup qu'il n'est qu'un parmi tant d'autres hommes, ou une parmi tant d'autres femmes. Il fait juste partie d'une autre, une des femmes. Donc, il se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. J'ai étudié dernièrement au sujet des empereurs romains. Alors, j'ai révisé l'ensemble des différents empereurs, leur vie, jetant un coup d'œil sur ce qu'ils étaient, à quoi ils ressemblaient. J'ai regardé, en fait, une émission spéciale à leur sujet il n'y a pas tellement longtemps. C'est quelque chose, en fait, que j'avais enregistré il y a déjà un petit bout de temps, mais je l'ai repris là où j'étais rendu, et j'étais rendu à Caligula. Alors, je ne me souviens pas exactement quel était son vrai nom, mais c'est le nom qu'on lui donnait, Caligula. Alors, c'est quelque chose qui signifiait quelque chose comme les petits souliers ou les petites bottes. Alors, c'était tout simplement un jeune garçon. Son père était extrêmement populaire, et lui-même était supposé devenir empereur. Alors, il semblerait que le grand-père de Germanicus, qui était le père de Caligula, avait empoisonné Germanicus. Et alors, cet arrière-petit-fils a vu, en fait, sa famille décimée par ce genre de choses. Mais parce que tout le monde aimait ce petit garçon, hein, Caligula, le vrai mot, c'est « petite godasse », alors, on lui a permis de continuer à vivre. Alors, il est devenu empereur, et ce fut sans doute une des plus grandes erreurs du Sénat romain. Le Sénat l'avait élu par acclamation, et en tant qu'empereur, il a régné pendant 4 ans. Mais en fin de compte, il était sans doute un des hommes les plus mauvais, les plus méchants qui aient jamais existé. Mais voici, après avoir vu tout ça, ce que j'ai appris des différents empereurs. Et peut-être que vous allez me dire, c'est vraiment quelque chose d'élémentaire, M. Pack. Ils vivaient à l'excès. Ils ont fait des choses absolument incroyables. Ils ont construit des choses qui dépassent l'imagination. Les ingénieurs d'aujourd'hui nous disent qu'ils ne peuvent pas comprendre ou savoir comment construire avec les outils qui étaient disponibles, les choses qui ont été faites par les architectes romains du temps. On pourrait les construire ces choses-là assez facilement avec nos outils aujourd'hui, mais la possibilité de faire les choses qu'ils ont faites, et j'aurai l'occasion d'en parler davantage à l'avenir, ce sont des habiletés qui sont perdues, ça. Et pourtant, chacun de ces empereurs-là sont morts. Ils sont dans la tombe. Là où il n'y a ni œuvre, ni souvenir, ni rien. Et le conseil que nous voyons ici dans Jacques, que ce soit pour les riches ou que ce soit pour les pauvres, c'est que vous êtes comme la fleur de l'herbe et vous allez mourir. Peut-être est-ce que vous pouvez considérer votre vie difficile ou peut-être vous la considérez facile ou un mélange des deux, ce qui est sans doute le cas de la majorité, mais d'une façon ou d'une autre, vous êtes de l'herbe. Et l'herbe meurt, même lors d'un hiver chaud comme celui-ci. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Et le pauvre aussi. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Alors, c'est un petit peu différent ici. Ça pourrait aussi être une épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alors, tout probablement, et en fait, ce verset parle d'épreuve ici, alors que le verset 13 n'en parle pas. Alors, ça peut être une tentation, c'est ce que ça dit ici, mais ça peut être des épreuves aussi. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. J'ai déjà tenté d'expliquer la différence entre la tentation et les épreuves. Et on peut dire que Dieu va éprouver les gens avec l'espérance qu'ils vont réussir, mais le diable va tenter les gens avec l'espérance qu'ils vont échouer. Tant que vous vous souviendrez de cela, vous réaliserez, en vous souvenant de ce verset, qu'il n'y a aucune différence si les difficultés ou les défis auxquels vous devez faire face ont été envoyés par Dieu dans l'espoir que vous réussirez ou par le diable avec l'espoir que vous échouerez. Vous devez réussir. Vous devez absolument réussir. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, on parle de choses qui sont vraiment élémentaires ici. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement d'on, ni ombre de variation. Alors, voilà, encore une fois, une déclaration fondamentale et de base à propos du Dieu que nous adorons. Autrement dit, dans ce qu'il dit ici, lorsque Dieu dit quelque chose, il entend ce qu'il dit et il l'accomplit. Sinon, savez-vous ce que ça voudrait dire? C'est que ce serait de la cruauté d'avoir de la foi en un Dieu qui changerait tout le temps. Un Dieu qui aurait même une ombre de variation. Autrement dit, Dieu voudrait que nous ayons absolument foi dans telle chose, mais voilà, il décide de changer, mais il ne nous dit pas à part de ça qu'il a changé. Et nous, nous nous retrouvons avec l'état où nous avons eu foi en quelque chose ou Dieu a fait tout simplement un changement, un remplacement. Donc, c'est une déclaration qui est fondamentale ici sur la nature de Dieu. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Dieu a décidé de vous donner son Saint-Esprit. Il y a un moment où, pour tous ceux d'entre vous qui avez le Saint-Esprit, où cela a été discuté, avait déjà été discuté, car vous avez été connus d'avance, comme dit Paul, vous avez été connus d'avance par Dieu, qui a pris à ce moment la décision de vous prédestiner à un certain moment dans le futur où vous seriez appelés et justifiés. Lors de cette justification, vous avez été engendrés par le Saint-Esprit en route vers ce qui est mentionné, entre autres, dans Romains 8, 28 à 30, c'est-à-dire être glorifié. Mais Dieu a mis en vous sa parole de vérité. Alors oui, on sait qu'il a mis en vous son Saint-Esprit, mais ici, il est dit qu'il a mis la parole de vérité. Vous avez été engendrés par la parole de vérité. Et j'ai essayé, dans les sermons et dans les livres, d'expliquer cela. Et je désirerais tellement qu'il y en ait davantage de ceux de la septième ère qui se réveillent à cette vérité-là. Vous n'avez pas seulement reçu le Saint-Esprit. Bien sûr, vous l'avez eu. Mais une autre façon de voir le Saint-Esprit, c'est que c'est la parole de vérité. Lorsqu'on nous dit, à un moment donné, que nous devons oindre nos yeux, cela veut dire que nous devons retourner en arrière, revenir plus loin en arrière et aller chercher la parole et la remettre présente à notre esprit, afin de retourner à la vérité. Un des problèmes de la septième ère, c'est une diminution du Saint-Esprit. Ils ont oublié que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu en même temps la vérité dans leur esprit. Ils l'ont reçu en même temps que le Saint-Esprit qui travaille avec eux dans les pages de la Bible. Et c'est un thème que je vais continuellement conserver. Si vous voulez comprendre les vérités spirituelles, vous devez étudier la Bible. Et vous devez avoir beaucoup du Saint-Esprit divin. Il est vrai que vous avez été engendré par le Saint-Esprit. Il est appelé le Consolateur. Il s'agit de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Il porte plusieurs noms. Et souvent, il est comparé au vent, à l'huile, à l'eau. Mais en même temps, frères et sœurs, c'est aussi la parole de vérité. Les personnes qui ont beaucoup de l'Esprit de Dieu et qui n'étudient pas leur Bible vont éventuellement perdre cet esprit et ne comprendront plus la Bible. Et ceux qui ont très peu de Saint-Esprit et qui peuvent étudier leur Bible toute la journée, vont aussi perdre la compréhension et la vérité. Il est nécessaire d'avoir beaucoup des deux, car ce n'est que l'Esprit de Dieu qui fait en sorte que les mots que vous lisez ont un sens, que vous êtes capable de les comprendre. Parce qu'en réalité, ce que Dieu vous dit, vous avez sa Bible à deux reprises. Si jamais vous vous posez la question « Où se trouve ma Bible? » Vous pouvez y penser de cette façon-ci. Vous pouvez aussi vous demander « Où est mon autre Bible? » Une de ces Bibles-là, c'est celle que vous avez avec vous, toujours, tout le temps. Elle est dans votre esprit. Il s'agit de la parole de vérité qui est dans votre esprit. Ta parole est vérité, que l'on lit dans Jean 17, 17. Vous avez toujours au moins une Bible avec vous. Voilà une des raisons pourquoi, depuis ma jeunesse, de temps à autre, en fait, j'ai toujours pratiqué ma Bible. Je me suis pratiqué à étudier ma Bible sans avoir ma Bible. Autrement dit, je force mon esprit à se rappeler de certains passages. Alors, ça veut dire que vous pouvez étudier votre Bible presque n'importe où, tout simplement parce que parfois, vous ne pouvez pas utiliser l'autre, mais vous en avez toujours une avec vous. Lorsque vous avez votre Bible physique ailleurs, à la maison, que Dieu nous a donnée, parce qu'il sait que nous avons un esprit, dans le fond, physique, humain, malheureusement, la mémoire oublie. Et certaines connaissances vont nous échapper, à moins que nous y retournions constamment pour faire la révision. Et ensuite, on peut se demander pourquoi nous étudions. Alors, le verset continue, « Afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. » En encore ici, rappelez-vous qui sont les 144 000. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Veuillez tourner la cassette, s'il vous plaît. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Or, les gens dans la société sont de plus en plus lents à écouter, vifs pour parler. Vous n'avez qu'à les écouter. Et vifs à se mettre en colère. Si vous violez leurs droits, si vous êtes en désaccord avec eux, laissez-moi vous dire qu'ils sont lents à écouter, vifs pour parler aux différentes émissions de télé, s'interrompant continuellement et vifs à la colère s'ils croient que quelqu'un les a lésés. Un chrétien est tout à fait l'opposé de ceux qui l'entourent. On pourrait même dire qu'il est littéralement le négatif de la même photographie. Il écoute attentivement. Et lorsqu'il parle, il parle avec beaucoup de soin, précaution. Et il ne se met pas en colère à tout propos. Il peut y avoir des raisons pour se mettre en colère, mais pas pour être soupe au lait, vif à la colère. Parce que celui qui est prompt à la colère fait des sottises, a écrit Salomon. Car, verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, autrement dit, tout excès, recevez avec douceur la parole, et voici un mot qui est intéressant, qui a été planté, ce qui est une autre façon, et peut-être même une façon plus claire de dire, à propos de la parole de vérité, par laquelle nous avons été engendrés, que Dieu a mis en nous sa parole. Alors, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Une des pires conséquences de croire que nous sommes nés à nouveau dans cette vie est que cela ignore le processus d'engendrement. Si je suis le diable, je ne veux pas que les gens sachent qu'il y a eu un engendrement lors du baptême. Simplement parce qu'ils pourraient revenir à la vérité exprimée dans ce verset-ci. Ils ont été engendrés par la parole de vérité dans leur esprit. En passant, dites-moi avec quoi s'accorde ce verset si le baptême et la conversion sont une naissance et non un engendrement. Comment cela va-t-il ensemble? Réponse, ça ne marche pas. Recevez avec douceur ce trésor incroyable que nous avons dans notre esprit. Et qui peut sauver vos âmes, c'est-à-dire vos vies, ce que l'anglais dit d'ailleurs. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si la parole de Dieu est dans notre esprit, mettons-les en pratique. Nous devons la mettre en pratique. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Je pense que je peux dire que la majorité d'entre vous, vous êtes regardés dans un miroir aujourd'hui. Il n'y a rien de mal à ça. Le but que nous poursuivons, c'est de nous rendre présentables, plus particulièrement le jour du sabbat, alors que nous allons nous présenter devant Dieu et devant nos frères et sœurs. Comme j'ai dit, nous voulons nous être présentables. Il n'y a rien de mal à ça. Et si vous voyez quelque chose qui fait défaut, qui est de travers, alors vous allez le corriger. Donc, verset 24, « Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. » Autrement dit, si vous regardez dans la parole de Dieu, sans avoir vraiment beaucoup de la parole de Dieu en action en vous, alors il va vous arriver ce qui est arrivé à la majorité des enfants de Dieu. Il n'avait pas besoin de croire ce que je vous dis. Vous n'avez qu'à croire ce qui est écrit dans ce livre-là. Ils oublient. Ils oublient. J'aurais aimé avoir 5 cents, ou donner 5 cents à l'œuvre, pour chacune des personnes qui nous écrivent et qui nous disent qu'ils sont en train de se rappeler des choses qu'ils avaient oubliées. Et il y en a des centaines qui nous ont écrit cela. Et au fur et à mesure que j'ajoute et que j'ajoute dans le livre « Is God's Work Finished » et que je repasse, j'écris toujours de plus en plus de choses concernant ce que j'appelais l'amnésie de masse, ou encore ce que j'avais appelé
Alzheimer renversé. Alors, on sait que les gens qui ont l'Alzheimer oublient les choses qu'ils viennent juste de faire, mais se souviennent des choses d'il y a longtemps. Tandis que pour ce qui est du peuple de Dieu, qui a l'Alzheimer à l'envers, si vous êtes capable de vous souvenir de cette analogie-là, ils ne se souviennent plus des choses d'il y a longtemps, mais elles sont capables de se souvenir des choses qui se sont survenues récemment. Si vous voulez savoir ce que je considère comme la plus grande des pertes de connaissances qui a affligé les membres des autres groupes, on pourrait parler de différentes choses, bien sûr. Je crois que c'est ce qu'est le corps de Christ. Qu'est-ce que l'Église est le corps de Christ? Les gens semblent incapables de se rappeler. Ils ont tout totalement oublié ce que M. Armstrong a enseigné à ce sujet. En fait, si on veut parler cru, les apostats ont littéralement été têtés aux mamelles de prostituées. Ont écouté ce qu'elles ont dit qu'était l'Église et le corps de Christ. Ensuite, ils sont revenus et ils l'ont enseigné aux membres de l'Église universelle de Dieu. Et tous les dirigeants des différents groupes ont tout simplement gobé cela, la ligne et l'hameçon en même temps. Ensuite, chacun dans son groupe s'est mis à l'enseigner à ses membres, tout en croyant sincèrement que c'était ce que M. Armstrong avait enseigné. Alors, vous avez des gens qui pensent, qui ont maintenu la vérité et qui sont absolument incapables de faire dans leur esprit la différence. Ils sont incapables de différencier ce qu'ils ont appris ou de ce qu'ont enseigné des prostituées de ce que M. Armstrong a enseigné. C'est absolument incroyable. Ils sont incapables de voir qu'ils pensent exactement de la même façon que les protestants, comme les luthériens, les baptistes, les méthodistes, les épiscopaliens. Et encore pire, les catholiques comprennent qu'il y a une seule Église. Mais les frères et sœurs de l'Église, eux, ne le comprennent plus du tout. Tout ce que ça a appris, c'est quelqu'un qui citait Daniel 12:7, que la force du peuple saint sera entièrement brisée. En anglais, dispersée. Autrement dit, dans leur esprit à eux, ça veut dire que le corps de Christ est tout simplement dispersé aujourd'hui. C'est impossible. Ce sont les gens qui sont à l'extérieur du corps de Christ, à l'extérieur de la véritable Église qui sont dispersés. Mais il est impossible de disperser le corps même de Christ. Verset 25, « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Frères et sœurs, tout le monde devrait lire le verset 27 et le faire soigneusement. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Il s'agit de quelque chose de tout à fait élémentaire ici. Souvenez-vous, nous parlons de choses simples. Alors, c'est le genre de choses que l'on apprend, que l'on entend quelques jours, quelques semaines après notre baptême. Le genre de choses que Dieu dit, apprenez cela. Gardez-les-là en dedans de vous. Avant de tomber dans l'apprentissage de d'autres doctrines plus profondes, rappelez-vous, les chrétiens sont des gens qui font des choses et ne font pas qu'entendre. Alors, c'est quelque chose aussi que l'on retrouve dans Romains. Hein, parce que Romains 2:13 dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Mais ce n'est pas quelque chose qui est étrange si vous avez lu ce que c'est qui est ici, c'est-à-dire de mettre la parole en pratique. Autrement dit, c'est dans le livre, c'est dans votre esprit. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est de le mettre en pratique, d'agir. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Encore une fois ici, une connaissance élémentaire. Ça a à faire avec ceux qui ont deux poids, deux mesures. Souvenez-vous au verset 8 un peu plus haut, hein, lorsqu'on parlait des gens qui sont inconstants dans toutes leurs voies. on ne parle pas ici seulement de personnes qui sont incertaines dans ce qu'elles font, mais des gens qui ont vraiment deux poids, deux mesures. Et c'est le genre de choses que j'ai pu constater dans l'Église de Dieu des années après années après années. La majorité des gens ignorent ceci absolument, complètement. Ça ne semble avoir aucune signification pour eux. Autrement dit, plus les gens ont de possession, mieux ils sont traités. Et moins elles en ont, plus elles sont mises de côté. Alors, c'est mal. Et si les gens avaient lu le livre de Jacques au tout début, c'est le genre de choses qu'ils comprendraient. Ce n'est tout simplement pas quelque chose qui est acceptable aux yeux de Dieu d'agir ainsi. Alors, je lisais l'autre jour, vous pouvez vous rendre à Colossiens 3 et au verset 24. C'est un verset qu'on a parlé il y a une couple de semaines déjà. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Autrement dit, lorsque Dieu va juger quelqu'un, il n'ira pas jeter un coup d'œil sur son compte en banque. Alors, tourne à Jacques 2:2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Autrement dit, vous êtes en train de faire une différence entre des personnes, et Dieu dit, pour moi, c'est l'équivalent de juger. Ça n'a absolument aucune importance aux yeux des gens de l'amour fraternel combien d'argent quelqu'un a ou la façon dont il est habillé. Dans le monde, comme on dit en anglais, « money talks », l'argent parle, mais pas dans l'Église de Dieu. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? À ceux qui l'aiment? C'est eux qui l'ont choisi. Et vous, vous avilissez le pauvre. Et c'est le genre de choses que j'ai vues au 20e siècle, fois après fois après fois. Parce que les gens n'ouvraient jamais leur livre, n'ouvraient jamais leur Bible. Ils avaient tellement peu de la parole de vérité en eux. Certains même n'en avaient pas du tout. Que c'était le genre de choses que l'on voyait constamment. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Pourquoi, dans l'Église de Dieu, auriez-vous deux poids, deux mesures? Quand vous voyez à l'extérieur que ce sont les riches, les puissants, les célébrités qui causent le plus de troubles à l'Église de Dieu. J'ai lu un article dans le USA Today, jeudi dernier, et j'ai pu regarder un sondage général sur l'ensemble de la jeunesse occidentale à qui on posait la question « Quels sont vos buts dans la vie? » Et c'est toujours les mêmes deux choses qui revenaient. En première page, et vous avez des millions et des millions de personnes qui arrivaient avec la même réponse. Ils voulaient avoir de l'argent et de la gloire. Personne n'a répondu Dieu, pas de façon significative. Ou encore de vivre une vie juste. Et pratiquement personne n'a parlé de l'importance d'édifier du caractère, ou d'avoir du caractère, ou quoi que ce soit qui avait à faire avec du caractère. Verset 7, « Ne sont-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, et ce qu'on signifie ici, ce que ça veut dire, c'est faire une discrimination basée, par exemple, sur l'apparence ou sur l'argent, ou encore d'après leur statut. Vous commettez un péché. Wow! Alors, ça, c'est fort. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Et c'est le genre de choses que je n'ai pas vues, ou très peu, au sein de l'Église de Dieu restaurée. Faire de la discrimination, l'acception de personne. Je ne pense pas que vous allez voir quoi que ce soit de ce genre au lieu de sécurité. Et pourtant, vous allez avoir toute une brochette de personnes là. Mais je ne crois pas que vous allez voir ce genre de choses-là. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que le genre de personnes qui font de telles choses-là n'iront pas au lieu de sécurité. Verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Alors, il faut dire que les lois dans la société existent afin de nous montrer comment demeurer libre. Alors, demandons-nous, pourquoi est-ce que les théologiens disent qu'on doit se débarrasser de la loi comme si c'était quelque chose de mauvais? Alors que si vous leur demandez, à propos de pratiquement n'importe quelle société sur la Terre, que ces mêmes personnes vous diraient que la loi permet de dire aux gens comment demeurer libres. Et ils vont vous dire, les lois des hommes sont bonnes. Si vous ne brisez pas certaines de ces lois-là, vous n'irez pas en prison. Ou vous n'êtes pas exécuté. Ou vous n'êtes pas mis à l'amende. Vous ne perdez pas votre permis de conduire, par exemple. Ou vous ne perdez pas certaines libertés que vous avez. Les lois de Dieu sont exactement la même chose. C'est la raison, frères et sœurs, pour lesquelles nous ne devons pas faire de compromis. Alors, j'en ai déjà parlé, et je devrais sans doute enseigner davantage sur ce sujet-là, que vous et moi, tout simplement, nous ne pouvons pas pécher. Nous avons été appelés pour arrêter de pécher. Alors, redisons-le clairement, être capable d'entendre et de comprendre ce que le livre nous dit, et de le mettre en pratique. Et si vous le faites, alors vous êtes libre. Vous êtes libéré de l'amende de la mort. On ne se débarrasse pas de la loi tout simplement parce que les gens y contreviennent. La société n'est pas stupide à ce point-là. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait davantage de lois lorsque les gens contreviennent à la loi. Bon, alors c'est peut-être pas beaucoup mieux. Mais c'est au moins plus intelligent que les théologiens du monde qui voient les gens pécher et qui disent, bon, mais débarrassons-nous de la loi. Comme ça, il n'y aura plus de péché. Essayez d'imaginer notre société où on dirait à un moment donné, bon, mais débarrassons-nous des lois. Comme ça, toute la population ne pourra jamais plus être coupable de crimes ou de délits. Personne, absolument personne ne réfléchirait ou ne penserait même à une telle chose. Mais c'est quand même renversant. Lorsqu'on en vient à la loi de Dieu, personne ne la considère comme étant une loi de liberté. Elle est considérée comme étant une loi d'esclavage. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et j'espère, frères et sœurs, que chacun d'entre nous pratiquons la miséricorde. Une des premières choses que nous allons devoir faire dans quelques années, alors que nous serons assis sur des trônes, ce sera justement d'accorder la miséricorde à des millions de personnes, immédiatement. Ces personnes-là vont avoir besoin de miséricorde. Ce sont des gens qui sont complètement écrasés, des millions et des dizaines de millions de personnes qui seront assis là, encore sous le choc de tout ce qu'ils vont avoir vu. Ils vont avoir vécu à travers les choses que nous allons avoir lues dans la Bible, ou que peut-être nous allons avoir vu un peu les éclairs au loin, mais eux vont avoir besoin de miséricorde. Ils vont avoir besoin de gentillesse, de douceur. Ça n'aurait en fait absolument aucun bon sens, après avoir traversé des événements aussi terribles que ceux qu'ils vont avoir rencontrés, alors qu'ils vont s'approcher, après avoir réussi à adopter une attitude qui est vraiment repentante, et c'est bien ce que les Écritures disent, en parlant du reste de 60 millions et de la grande foule. Alors, toutes ces personnes vont avoir réussi à survivre. Oui, il va y avoir d'autres personnes ailleurs qui vont survivre, mais ceux-là viennent de traverser ici la grande détresse. Et il faut s'arrêter et réfléchir. Ces gens-là sont des gens qui veulent obéir à Dieu ici. Donc, nous allons devoir leur accorder de la miséricorde immédiatement. Ils vont se convertir. Et le sang de Christ va les purifier. Alors maintenant, nous arrivons à un verset que Luther détestait. Il refusait, justement, de lire le livre de Jacques à cause de cela. En fait, il ne le considérait même pas comme faisant partie des Saintes Écritures. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », alors, frères et sœurs, c'est le genre de choses que nous ne devons pas faire. J'ai déjà donné des sermons sur ce sujet-là. Pas plus que nous allons remplir, prendre soin du monde et le nourrir. Et c'est un point qui est très clair. Mais c'est aussi couvert dans le livre « Is God's Finish ». Mais au sein de l'Église, frères et sœurs, on peut en venir peut-être un jour où nous allons avoir tout en commun. De la même façon dont nous l'avons rencontré au tout début de l'Église, dans Actes 2 et 3, à cause de l'état de détresse de l'Église à ce moment-là. C'était aussi le moment où Ananias et Saphira avaient dit qu'ils le feraient, mais en fin de compte, ils ne l'avaient pas fait réellement. Si vous comprenez bien l'histoire d'Ananias et de Saphira, il y a eu un problème seulement parce qu'ils avaient dit qu'ils donneraient tout ce qu'ils avaient parce que tout le monde avait toutes choses en commun. Mais ils n'étaient pas obligés de faire cela. Mais en réalité, c'est ce qui se passait partout alentour. Et on poursuit au verset 16. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui ait enseigné à Martin Luther. Et cette personne va devoir lui dire, tu vas prendre ce livre ici et tu vas le rajouter, le remettre dans les Saintes Écritures, dans la Bible, et tu vas l'étudier. Parce que tu aurais dû le lire avec plus de soin. Parce qu'il contient un message pour toi. Mais je pense qu'il savait qu'il y avait un message pour lui. La seule chose, c'est qu'il ne l'aimait pas, ce message-là. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Autrement dit, vous avez quelqu'un qui vous dit, garde, moi, j'ai la foi, toi, va faire les œuvres. Elle est plutôt suspecte comme personne, là. Autrement dit, j'ai seulement la foi. Je ne fais jamais, jamais rien pour qui que ce soit. Simplement parce que je suis tellement, tellement occupé à avoir de la foi. Alors, c'est tout à fait ridicule. La foi signifie mettre en pratique, exercer cette foi-là vis-à-vis des promesses. Car Dieu nous dit, je vais faire telle chose si toi, tu fais telle chose. Je te montrerai la foi par mes œuvres. Si vous croyez que Dieu vous dit de faire une chose en particulier, vous devez la faire. Et c'est la démonstration que vous le croyez. Chaque fois que vous accomplissez une œuvre, vous êtes la démonstration pour les autres que la foi est réelle. Avez-vous déjà songé à cela? Avez-vous déjà réalisé qu'à chaque fois que vous faites, ou quelqu'un vous voit ou me voit faire une bonne œuvre, il constate, il voit quelqu'un être en train de démontrer la réalité, la force, la puissance de la foi. Je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous pouvez constater la foi des gens parce qu'ils disent, je crois Dieu et en voici la preuve. Je fais ces choses pour les gens, incluant les choses qu'on vient de lire dans les versets 15 et 16. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons tremblent. Et la majorité des gens qui n'obéissent pas à Dieu ne tremblent certainement pas quant à eux. Autrement dit, les démons craignent Dieu davantage que les personnes qui n'ont ou n'accomplissent aucune œuvre. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais c'est le message qui nous est passé ici. Les gens qui ne craignent pas et ne tremblent pas, les gens qui ne travaillent pas à leur salut avec crainte et tremblement, ces gens-là, qui ne font aucune œuvre, ont moins de foi que les démons. Parce que non seulement les démons croient, mais ils tremblent au nom de Dieu. Peut-être qu'ils ne vont pas lui obéir, mais ils tremblent devant son nom. Alors, ceci constitue quand même une connaissance extraordinaire. vous n'avez pas d'œuvre, alors les démons sont en avant de vous, au point de vue de la foi sur le chemin du salut. Pas que les démons soient sauvés, là. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Est-ce que vous voulez vraiment savoir ça? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Intéressant à noter ici, il est dit qu'il l'offrit. En fait, il n'a pas eu réellement à l'offrir, parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Mais dans son esprit, c'était fait. Il l'avait offert. Une des grandes vérités au sujet des épreuves, c'est que Dieu, si Dieu sait que vous allez le faire, il n'aura pas besoin de vous éprouver. Une des choses les plus importantes en ce qui concerne les épreuves, c'est d'aller repasser dans votre esprit ce que vous feriez dans un tel cas. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours éviter les épreuves, mais si vous dites dans votre esprit, dans votre cœur, « Père, si telle chose arrive, ou telle autre chose, je ne manquerai pas mon coup. Je ne te faillirai point. » Pratiquez ces genres de choses-là. Autrement dit, si un jour on menace ma vie, je ne te dénierai pas. Je ne te renierai pas. Ou si jamais on me dit, présentez-vous un jour de sabbat, sinon tu n'as pas de travail, alors je ne faillirai point. Je ne désobéirai pas. Je ne mettrai pas le travail avant toi. Demandez-vous pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu irait éprouver une personne qui est disposée ainsi? Là, on ne parle pas de quelqu'un qui ne cesse de répéter toujours la même chose puis se compte des blagues. C'est une autre histoire, là. Mais si Dieu sait de façon absolue que c'est ce que vous ferez, que vous ne mettrez pas le travail avant, autrement dit, Dieu n'avait pas besoin de voir Abraham utiliser le couteau sur Isaac. Peut-être est-ce que vous pourriez spéculer et vous dire, « Ah, mais peut-être qu'Abraham aurait arrêté pendant qu'il descendait son couteau ou pendant qu'il voulait le frapper. » Dieu savait qu'il y avait un moment précis qui lui permettait de dire qu'il savait qu'Abraham le ferait. C'est une autre des raisons pour laquelle la méditation est si importante. Rappelez-vous que David méditait jour et nuit sur la loi de Dieu. Vous voulez comprendre une des principales raisons de la méditation? Une des plus grandes raisons consiste à méditer sur toutes les lois de Dieu et de la façon dont elles s'appliquent dans votre vie, de sorte que lorsque vous serez face à une situation précise, vous pourrez dire, voici ce que je suis supposé faire et voilà ce que je vais faire. Et repassez ça, ce genre de choses-là, constamment, constamment et constamment. David était couché sur son lit le soir, ou encore il était dehors dans le soir, il marchait, il disait qu'il méditait. Isaac aussi faisait ce genre de choses-là, les autres. Vous vous rendez compte que si c'est le genre de choses que vous faites, vous ne faites pas seulement que penser aux étoiles, bien que ce soit inspirant. Vous pouvez penser à Dieu et vous pouvez penser aux doctrines ou des choses comme ça. Mais une des choses auxquelles vous devez aussi penser, c'est qu'est-ce que je vais faire ou comment est-ce que je réagirais si telle chose se produisait? Qu'est-ce que je ferais si telle chose se produisait ou telle autre chose se produisait? Peut-être qu'en faisant ça, vous n'aurez pas à traverser de ce genre d'épreuve. Il n'y a pas de promesse, là, mais c'est possible. Dieu le sait. Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Il a fait la démonstration de sa foi parce que le couteau est élevé, l'enfant est attaché et Dieu a dit, c'est suffisant. Je sais que tu le ferais. Mais dans l'esprit de Dieu, et c'est un point intéressant, Abraham avait offert Isaac. Et si on retourne dans l'Épître aux Hébreux, on y lit qu'Abraham savait qu'il était le fils de la promesse. Donc, ce qu'Abraham avait à l'esprit, c'est ce qui va se passer. Je vais offrir et sacrifier mon fils et je vais voir sa résurrection arriver immédiatement. C'est ce qui va se passer parce que c'est le fils de la promesse. Or, Dieu ne ment jamais. Rappelez-vous, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, en fin de compte, en ce qui concerne Abraham, il n'y avait qu'un seul scénario. Je vais être témoin d'une résurrection. Donc, voici le couteau. Alors,
Alors Dieu dit non, tu n'as pas besoin de le faire, on n'aura pas besoin de ressusciter qui que ce soit. Il n'y a personne qui va mourir ici aujourd'hui, je sais que tu le ferais. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Autrement dit, Dieu pouvait lui faire confiance. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est renversant ici. C'est pas la seule chose qu'Abraham a faite. En fait, il est appelé le père des croyants. Mais c'est réellement quelque chose qui est extraordinaire. Combien de pères feraient une telle chose? J'ai, moi, des garçons. J'essaie de m'imaginer avec mes petits garçons qui sont là, attachés, et avec un couteau prêt à les frapper. Puis le petit garçon qui regarde, il dit, « Papa, mais pourquoi est-ce que tu m'as attaché? » Puis là, vous êtes là, il dit, « Attends une minute, là. » Puis le petit garçon dit, « Je ne comprends pas. » Puis là, il voit son père qui tire le couteau. Essayez seulement de vous imaginer ça. Quel petit garçon ne s'effraierait pas à un certain moment, hein, à un certain point? Mais Isaac a obéi, il n'a pas crié, il ne s'est pas rébellé, il n'a rien fait. Il a fait confiance à son papa et, en fin de compte, le sacrifice n'a pas été nécessaire. Et c'était son fils unique. Moi, j'en ai eu deux. C'était son seul fils. Okay, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. OK, rendons-nous maintenant au chapitre 3. Alors, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. On a, en cette fin des temps, beaucoup d'enseignants. Si les gens avaient bien lu ce verset, l'avaient compris et y avaient cru tôt, au moment de leur conversion, nous n'aurions pas tous ces gens en train d'enseigner ce tas de bêtises dans le monde aujourd'hui qui rendent confus le peuple de Dieu. Et je ne parle pas ici seulement des dirigeants des différents groupes, ou groupuscule, à un moment donné. Vous avez aujourd'hui dans le monde un tas de personnes qui parlent et qui ne savent pas seulement de quoi ils parlent. J'ai reçu une lettre lundi dernier de la part d'un homme que je connaissais dans le ministère. Alors, c'était quelqu'un de l'Église universelle de Dieu. C'était un chic type. Et j'avais eu l'occasion de souper avec lui à plus d'une reprise. Et il m'a écrit une lettre lundi me disant que Dieu était à la veille de m'exécuter. Et c'est quelque chose qui était pour se produire très bientôt. Et voici comment il savait cela. Pourquoi? C'est parce qu'il avait le sentiment d'être le dirigeant des deux témoins. Et là, il était en train d'écrire une lettre à tous les dirigeants des différents groupes, des différents sprinters. Donc, il me voit, moi, comme en étant un. Et que je vais mourir bientôt, et que son travail est un petit peu comme celui d'Ésaïe, d'Ézéchias. Il faut que je mette ma maison en ordre, autrement dit, mes choses en ordre, parce que tu vas mourir, tu ne vivras pas. Alors, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Je me demande où est-ce que ces gens vont chercher ces idées-là. Alors, il n'y avait personne qui avait entraîné cet homme-là. Il était jeune. Dans le ministère à cette époque, en fait, beaucoup plus jeune que je ne l'étais moi-même dans le ministère. Et on s'aperçoit que, de toute évidence, personne ne lui a jamais dit les dangers que représentait de laisser Satan s'introduire dans notre esprit. En fait, il n'a jamais été entraîné sur la façon de pouvoir éviter ce genre de ruse du diable. Je suis certain qu'il n'y a jamais eu à chasser un démon. En ce qui me concerne, j'ai été entraîné sous les ordres et la protection des deux personnes les plus sages dans ce domaine-là. Et quand j'ai eu affaire aux démons, j'ai su qu'est-ce qu'il fallait. Je savais ce qu'il fallait faire. Sans eux, je n'aurais sans doute pas été capable de savoir quoi faire du tout. Alors, je suis reconnaissant à Dieu de cette connaissance qu'il m'a donnée. Il y a eu des situations au cours desquelles des ministres plus âgés, plus vieux que moi, sont venus me chercher. Parce qu'ils disaient, Dave Pack sait comment agir dans ces cas-là. Alors, je peux vous dire que je n'aime pas ce genre de situation-là, mais on m'a enseigné comment faire. Alors, les gens se mettent sur un piédestal et ils deviennent des docteurs, des enseignants. Alors, je comprends qu'il s'agissait ici d'un ministre, mais il y en a beaucoup de monde qui deviennent tout à coup des enseignants et des docteurs. Ils pensent tout connaître. Ils ont des idées. Ils croient que l'ère de Laodicée permet d'agir ainsi, c'est-à-dire enseigner ce qui semble juste à leurs yeux. Nous bronchons tous de plusieurs manières, au verset 2. Alors, le sens de ceci, c'est que nous offensons, nous scandalisons plusieurs personnes. Alors, il n'y a personne de vous ici qui a offensé qui que ce soit, parce que personne ne parle là, pour le moment. Et par contre, moi, j'ai la possibilité ou la capacité d'offenser les gens pendant ce sermon. Alors, je ne m'inquiète pas trop à ce sujet-là, parce que les chances sont qu'ils soient offensés pour les mauvaises raisons. Mais réfléchissez-y un peu. Les ministres parlent beaucoup. C'est leur travail. Et c'est le genre de choses qui peut se produire souvent. Comment dire, on ne peut pas faire autrement que de prononcer plusieurs paroles. Si quelqu'un ne bronche point en paroles, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ensuite, vous avez plusieurs versets jusqu'au verset 8 qui parlent de la langue. Comme le verset 8 le dit, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Elle est pleine d'un venin mortel. » Et ce n'est pas des blagues, là. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et la langue est capable de faire une telle chose. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Comment dire, la langue peut dire toutes sortes de choses. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Alors, vous et moi devons décider ce qui va en sortir. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Comment dire, si nous sommes chrétiens, ce sont des bénédictions qui doivent en sortir. Nous ne devons pas prononcer de malédiction. Alors, je pense encore à cet individu qui m'a envoyé cette lettre-là. Pauvre individu. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Alors, c'était un temps plein. Ce que c'est que les gens ont pensé, à un moment donné, en ce qui concerne les apostats. Ils pensaient que c'était un petit peu d'un et de l'autre. Mais c'était pas ça. C'était de l'eau amère, le moment même où M. Armstrong est mort. Ça n'a pas été une question de l'eau douce qui a été changée en eau amère. Dès que M. Armstrong est mort, c'était de l'eau amère. Et il n'y a absolument rien qu'ils nous ont apporté qui n'était pas des doctrines absolument horribles. Et encore aujourd'hui, il y a plein de monde qui ne sont toujours pas capables de comprendre cela. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Alors, tout cela n'est que simplement des connaissances élémentaires de base du christianisme. Comment dire, ne niez pas les faits, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse, qui devrait être ici entre guillemets, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Il y a un bien grand nombre de personnes, d'êtres humains, qui semblent avoir de la sagesse. C'est le genre de sagesse rusée, là, astucieuse. Alors, ils sont attirants, séduisants. Mais Dieu nous dit que les hommes méchants et imposteurs, dans la fin des temps, avanceront toujours plus dans le mal. Ils ont l'apparence de sagesse, mais ils ne le sont pas. Et quand vous regardez les fruits, hein, les œuvres, dans leur vie, dans leur organisation, ils ont beaucoup de problèmes. Qu'en est-il de vos vies? Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. C'est tout simplement direct. Il n'y a rien de trompeur là-dedans. Ensuite, pacifique, modéré, conciliant. Autrement dit, c'est pas difficile de s'approcher puis de parler à ces gens-là. Pleine de miséricorde. Ce sont des gens qui sont toujours prêts à pardonner. Et de bons fruits, exempts de duplicité. Encore une fois, ici, pas d'acception de personne, de favoritisme et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent, qui font la paix. Alors, je tiens à répéter encore ce point-là. Il y a des gens qui sont paisibles. Et je dirais même plus paisibles que certains qui pourraient être appelés des faiseurs de paix. Car il y en a qui sont tout simplement
paisible de nature. Mais Dieu ne récompense pas ces gens-là. C'est parfait, c'est une belle qualité, mais Dieu récompense ceux qui font la paix, qui la provoquent. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas faire la paix là où elle existe déjà. C'est aller là où il y a des conflits, des querelles, des controverses, des disputes, des divisions et même la guerre. Et faire la paix. Là, on parle des enfants de Dieu, comme le dit le sermon sur la montagne. D'où viennent les luttes, les guerres? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Alors, on a quelque chose d'intéressant ici. Autrement dit, il y avait peut-être sans doute dans l'Église qui s'impliquaient dans des luttes, là. Et le mot, c'est les guerres. C'est le genre de question, entre autres, qu'on retrouve dans les différents splinters de nos jours. Pouvons-nous faire le service militaire? Pourtant, c'est quelque chose qui est tellement élémentaire. Alors, les gens sont complètement confus. Ils mélangent le dessein de Dieu et leur citoyenneté avec des demandes de la nation. Nous avons eu, par exemple, une lettre hier ou avant-hier, je crois, d'une personne qui avait lu la brochure sur le vote et qui était en accord avec cela. Et cette personne avait aussi une ou deux autres questions. Alors, si vous comprenez bien le principe qui est derrière cette brochure sur le vote, ça vous donne et ça vous procure la réponse en ce qui concerne le service militaire. Je suppose qu'on pourrait dire aussi l'inverse. Si vous comprenez très bien l'article sur le service militaire, alors vous comprenez très bien pour qui vous devez combattre. Vous êtes réellement un soldat et vous êtes en guerre, mais vous appartenez à une armée qui est totalement différente. Vous faites partie de l'armée de Dieu. Vous êtes réellement un soldat. Et parfois, vous êtes en guerre et c'est très difficile. Mais il n'est pas question que vous commenciez à aller à la guerre pour quelqu'un d'autre. Il est impossible pour vous d'être citoyen de Dieu et d'aller voter dans les gouvernements des hommes. Bon, continuons maintenant au verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Frères et sœurs, une des choses à laquelle nous devrons faire attention dans l'Église de Dieu restaurée, au fur et à mesure que cette œuvre va croître jusqu'à atteindre une taille éléphantesque, au-delà de tout ce que le monde a pu voir jusqu'à maintenant, savez-vous qu'il va y avoir un danger? C'est celui de voir nos têtes enflées en même temps. Autrement dit, en arriver et dire « Wow, je suis vraiment parti de cela ». Il faudra faire attention pour ne pas bouger le doigt vis-à-vis des autres ou encore faire des dés. Et faire cela à l'endroit de certaines personnes qui ne sont pas avec nous autres, au lieu de remercier Dieu. Si nous commençons à nous sentir supérieurs, avoir la tête enflée en pensant que nous sommes quelqu'un de spécial, alors rappelez-vous ce que Dieu dit de l'orgueil qui précède la chute. Nous devons prendre nos précautions. Au moment même où nous rentrons, au début de l'année 2007, car je vous le dis tout de suite, nous allons croître énormément cette année. Ça va être énorme. Je ne peux même pas m'imaginer ce que va être 2008, 2009 et au-delà. On ne peut tout simplement pas l'imaginer. J'aurais pensé donner un sermon entier sur le plan des opérations concernant la première commission. Je le ferai peut-être parce que nous avons maintenant un plan d'opération pour la deuxième commission aussi. Alors, quand j'utilise le mot « plan d'opération », je ne parle pas de plan stratégique. Le plan d'opération se situe au-dessus de plan stratégique. Et en dessous de stratégique, vous avez ce qu'on appelle les plans tactiques. Alors, opération, stratégie et tactique. Donc, ce que je dis, c'est que nous avons des plans d'opération pour chacune des deux premières commissions. Alors, un autre point, c'est qu'au fur et à mesure que nous allons croître, il va y avoir des pasteurs qui vont être engagés. En fait, nous allons tout simplement dominer d'une manière que personne n'a jamais vue. Autrement dit, nous pourrions devenir arrogants, commencer à ralentir en passant devant un miroir, et ce ne sera pas parce que nous sommes en train de nous préparer pour le sabbat. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Le diable n'est que vanité. Il essaie constamment d'entrer dans notre tête. Et il fuira loin de vous.
frères et sœurs, demeurez humbles. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Encore une fois, des renseignements, des instructions de base. Débarrassez vos mains des péchés, lavez-les. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Ça signifie jeûner. Nous avons besoin de jeûner pour nous approcher de Dieu, de façon à ce que jamais nous commencions à nous imaginer que c'est nous qui accomplissons cette œuvre. Nous ne faisons absolument rien, exception faite de ce que Dieu choisit d'accomplir par notre intermédiaire. Nous sommes pour lui des vases de terre, à l'intérieur duquel il a mis des trésors, un trésor très précieux, son esprit, la parole de la vérité. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie en...
Bon après-midi tout le monde. Alors, une chance que c'est le sabbat aujourd'hui. Il n'était pas question de couper le gazon ce matin. Alors, c'est vraiment quelque chose d'étrange. Il fait vraiment chaud. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à tous. Je dois vous dire que nous avons eu des drôles d'orthographe du nom de Saddam Hussein cette semaine. Et je crois que peut-être le plus étonnant parmi tous ceux que nous avons reçus, c'est quelqu'un qui est venu voir notre article